19h-20h. Et les informer avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, dans les informer, vous le savez, durant une heure jusqu'à 20h précisément, eh bien on décrypte, on analyse, on commente l'actualité. Et ce soir, vous le savez plus que jamais, alors à la fois l'invité actu avec Pascal Boniface et son ouvrage qui sort aux éditions, donc Errol, La géopolitique tout simplement, un livre qui m'a beaucoup plu, on va en parler dans une poignée de minutes. Et puis, j'ouvrirai le standard 01 53 48 3000 pour qu'on échange ensemble, comme chaque soir, vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous en remercie infiniment pour commenter l'actualité, on va parler du Covid. Alors, cette cinquième vague, est-elle vraiment présente parmi nous? Est-ce qu'elle est là? Parce que moi, quand je regarde des infos, j'ai l'impression que ça nous renvoie. Il y a quelques mois, la situation épidémique est en train de s'accélérer, paraît-il. Alors, on va en parler. Et puis, ce second sujet, à l'Assemblée, vous savez, ça chauffe. Jean Castex, le Premier ministre, avec les LR, sur les moyens de l'hôpital. On en parlera tout à l'heure. Et puis, la COP26, finalement. Toutes ces conférences sur le climat. Franchement, disons-le, est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, je me pose la question. Eh bien, c'est des sujets que je propose avec justement les points de vue qui vont être confrontés avec le face-à-face Mohamed Benjebour, consultant en communication et en culture, mais également le président de l'IPSE, Emmanuel Dupuis. Plus que jamais, les informés, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité actu.
Les informés. L'interview.
L'interview, l'invité actuel, c'est avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est une signature, comme tous les jeudis, soir à 19h30, cette signature avec son billet d'humeur, il s'appelle Pascal Boniface. Bonjour mon cher Pascal.
Bonjour Adil.
Comment ça va Pascal, le patron de l'IRIS?
Impeccable, heureux de t'entendre.
Partagé. Vous avez écrit un ouvrage aux éditions Errol, la géopolitique tout simplement, ça vous a pris, parce qu'il fallait vous aviez une envie d'expliquer le monde? De comprendre le monde.
Et pour rendre à César ce qu'il y a à César et rendre à Anne Sénéqué ce qu'il y a à Anne Sénéqué, c'est une idée de Anne Sénéqué. Mmh. Nous nous sommes mis à deux pour écrire ce livre et elle voulait faire un livre, disons, qui soit facile d'accès et elle pensait plutôt à un public d'adolescents. Un peu, elle voulait donc faire un livre qui soit à la fois explicatif mais qui soit également agrémenté de photographies, de cartes et d'illustrations, surtout beaucoup d'illustrations.
Anne Sénéqué qui est médecin, médecin psychiatre.
Voilà, un médecin psychiatre et qui est souvent intervenu sur les affaires de Covid sur plusieurs antennes. Et donc, je lui ai dit oui, pourquoi pas. Enfin, c'était son projet. Je lui ai dit mais faites-le seul, etc. Il dit non, je tiens à le faire avec vous parce que bon, voilà. Et donc, nous sommes allés voir mon éditeur, Errol, et Errol, je dois dire, a joué le jeu parce que ils ont mis le paquet en termes d'illustration. Tout ça, c'est quand même un budget. Et en fait, on arrive avec ce livre, effectivement, qui correspond un peu à ce qu'on appelle les beaux livres, qui arrivent en fin d'année et qui peuvent être un cadeau.
Ça peut être un cadeau, il est beau, ça rappelle les encyclopédies, quelque chose comme ça, ça nous renvoie.
Voilà.
C'est un beau format, une belle couleur d'ailleurs.
Il est assez costaud, quoi. Il y a pas mal de pages. Hein. Et donc, effectivement, je ne dirais pas que ça a glissé sous le sapin pour tout le monde, mais bon, c'est ce qu'on appelle le cadeau utile. Le cadeau, plutôt qu'une cravate à pois, c'est quand même pas plus mal. Et en tous les cas, c'est un peu le créneau qui est visé de faire un beau.
Allez, disons-le, Pascal Boniface. Hors antenne, vous m'aviez suggéré justement qu'on fasse gagner justement pour Noël quelques lots Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose?
Je vais demander à Errol et puis on va s'arranger comme ça, pourquoi pas.
Ça peut être pas mal pour un joli cadeau de Noël pour nos auditeurs qui leur permettra justement de mieux comprendre le monde. Alors Pascal Boniface, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est un livre où, évidemment très facile à feuilleter, à lire, beaucoup de photos en noir et blanc, photos en couleur, des dessins aussi également. Alors moi ce que j'aime bien c'est que vous arrivez, quelle est votre recette? Parce que vous arrivez systématiquement à structurer quasiment pareil vos ouvrages. C'est-à-dire que vous nous embarquez vraiment de façon très fluide. C'est une écriture qui vous appartient?
Oui, enfin, bon, en tous les cas, moi, mon objectif, c'est mon credo. C'est que la géopolitique n'est pas réservée au 7e arrondissement de Paris et à quelques élites hautement spécialisées et hautement informées. Que c'est quelque chose qui est un défi citoyen, que ça concerne tout le monde dans son existence et dans son environnement. Et à partir de là, eh bien, il n'est pas nécessaire de jargonner pour jouer les types intéressants qui en savent plus que les autres. Et moi, je vais vous faire un aveu, Adil-moi, à chaque fois que j'écris un livre où mes deux parents sont disparus désormais, malheureusement, oui. Je me dis toujours, est-ce que mes parents me comprendraient? Mes parents n'ont pas fait d'études, ils sont arrêtés à ce qu'on appelait à l'époque le certificat d'études. Et donc, en fait, mon souci, c'est toujours d'être compris par le plus grand nombre, parce qu'une fois encore, il n'est pas nécessaire de faire compliqué pour paraître intelligent. Et justement, d'où le titre, cette géopolitique, tout simplement, parce que je pense que la géopolitique, c'est important, mais qu'on peut en parler en termes simples, sans pour autant tomber dans les simplifications.
Alors, il est important aujourd'hui, Pascal Boniface, de comprendre la géopolitique, justement. J'ai parcouru votre ouvrage, et alors, tout est traité, hein, crise de la Covid-19, vous parlez aussi de la montée en puissance de la Chine, vous parlez des États-Unis, de l'Amérique, vous parlez de Biden, vous parlez du Maghreb, de ce monde arabe divisé, notamment. Alors, c'est quoi, au juste, c'est... En gros, on a besoin de mieux comprendre aujourd'hui la géopolitique pour mieux avancer, mon cher Pascal ?
Tout simplement pour, effectivement, parce qu'on voit très bien que si vous ne vous intéressez pas à la géopolitique s'intéresse à vous. Vous regardez le nombre de nouvelles qui viennent de l'étranger, mais qui en fait ne sont pas étrangères, et qui ont un impact dans notre vie. Que les choses qui se passent à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, il y a 20 ans, on n'en aurait pas parlé en France, ça nous intéressait pas.
Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de repères aujourd'hui ?
Tout simplement parce que les frontières existent toujours, mais elles ont changé de signification. Parce que des événements qui se produisent à des milliers de kilomètres peuvent avoir un effet direct sur votre existence. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de comprendre le monde. Je vais vous faire une comparaison. Oui. Quand moi j'étais au lycée il y a déjà très longtemps, oui. On avait de l'anglais comme matière et en fait, mais on l'apprenait plus ou moins pour avoir la moyenne parce que personne ne partait en Angleterre, personne n'avait l'occasion de parler anglais en sa vie. Et puis maintenant, aujourd'hui, tout le monde doit un petit peu parler anglais ou globish pour pouvoir circuler. Ben, je dirais que c'est pareil pour la géopolitique. Si vous n'avez pas un minimum de permis géopolitique, si vous n'avez pas un minimum de connaissances des grands phénomènes géopolitiques, vous êtes un peu démunis. Vous ne pouvez pas circuler, ni dans votre pays, ni dans le monde. Vous ne pouvez pas circuler intellectuellement et politiquement dans votre propre pays, et encore moins dans le monde. Donc, une fois encore, la géopolitique, ce n'est pas uniquement pour devenir diplomate ou général, mais c'est juste pour être citoyen, pour savoir que, comme ce qui se passe dans le monde a un impact sur votre vie quotidienne, ouais, parce que autant un peu avoir les grands éléments.
Quand je vous entends parler, Pascal Boniface, effectivement, quand vous dites mieux comprendre le monde, c'est aussi les enjeux qui nous attendent, c'est-à-dire on doit mieux l'appréhender également aussi, non ?
Écoutez, la COP, vous allez tout à l'heure parler dans l'émission de la COP26, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas sans conséquence sur notre vie quotidienne. Selon la nature des relations demain entre la Chine et les États-Unis, la situation globale mondiale, la situation économique, la situation stratégique, selon que l'on s'oriente vers plus de confrontation ou plus de coopération, sera radicalement différente. Et puis, le Covid-19 nous a quand même montré que la maladie, les pandémies ne connaissaient pas les frontières. Et que ces enjeux de santé publique n'étaient pas localisés, mais qu'ils étaient globalisés.
Par exemple, si je prends le chapitre, justement, où est vraiment le chapitre « Un monde arabe divisé », qui nous permet vraiment d'avoir vraiment des informations. Vous dites que le monde arabe a appartenu à l'Empire ottoman jusqu'à la disparition de celui-ci. Français, britanniques avaient fait des promesses d'indépendance pour mobiliser contre cet empire. Et un peu plus loin, vous faites la comparaison aussi toujours avec cette Turquie voisin encombrant. Effectivement, vous vouliez nous amener, par exemple, de ce chapitre, à mieux comprendre la géopolitique du monde arabe, qui est très différente quand on parle du Maghreb, l'Afrique du Nord, et quand on parle de l'arabe, du monde du Moyen-Orient, le monde arabe du Moyen-Orient.
Oui, effectivement. D'ailleurs, on ne devrait pas parler du monde arabe, mais des mondes arabes. Entre le Maghreb, le Mashrek, entre les pays du Golfe, de grandes différences. Entre les pays qui appartiennent au continent africain, d'autres au continent asiatique, entre des pays riches de leurs ressources pétrolières, d'autres qui en sont démunis, entre des pays riches de ressources pétrolières et à faible population, et d'autres qui ont des ressources pétrolières mais une forte population, et donc ne peuvent pas avoir la même relation avec la rente pétrolière. Tout ceci crée donc des différences, et puis on constate chaque jour que l'unité du monde arabe, c'est un slogan, ce n'est pas une réalité.
Ce n'est pas une réalité. Un chapitre aussi qui a retenu mon attention, le nucléaire militaire, la bombe. Que peut-on retenir justement dans ce chapitre, la course à l'arme nucléaire ?
À la fois la course à l'arme nucléaire qui nous a, qui a coûté des fortunes, qui a failli nous entraîner au bord du gouffre. En même temps, le fait que la dissuasion en Europe a maintenu la paix alors que le monde était surarmé, mais que pour maintenir une dissuasion, il n'est pas nécessaire d'avoir des milliers, des dizaines de milliers d'armes nucléaires. Il faut en avoir un nombre minimum, cela suffit. Et donc on voit aussi que, il y a ce paradoxe que des pays qui ont l'arme nucléaire estiment que cette arme est nécessaire pour leur sécurité, mais estiment qu'il est indispensable que d'autres pays ne l'acquièrent pas pour que la sécurité mondiale soit assurée.
Et enfin, Pascal Boniface, justement, dans les années à venir, vous savez, on va manquer d'eau. Dans les années à venir, il y aura sur certains continents, vont connaître de mauvaises heures, c'est-à-dire vont devoir vivre malheureusement la famine. Et vous parlez dans ce chapitre, l'agriculture, la solution à la fin. C'est la course à la fin, quelque part.
Oui, effectivement, on voit très bien qu'il y a, on parle des fois de l'arme alimentaire. Qui peut effectivement, on a en ce moment une augmentation du prix du blé qui peut poser très rapidement des problèmes extrêmement importants pour de nombreux pays, pour de nombreuses populations. Et effectivement, l'augmentation démographique peut nous interpeller sur le fait, est-ce que la planète sera assez grande pour nourrir tout le monde, puisque nous avons un triple défi, augmentation de la population, et donc augmentation de la consommation, enrichissement global de la population, donc de nouveaux modes de consommation. Et on sait que si on mange plus de viande et moins de riz, il faut plus de surface. Et donc comment assurer à la fois le développement, la préservation de l'environnement, et le fait que chacun ait le tout s'accompagnant d'une croissance démographique qui pourrait être maîtrisée à l'avenir mais qui n'est pas pour le moment.
Et enfin, avant d'arriver au terme de cette interview concernant donc votre ouvrage La géopolitique du numérique, on est en plein dedans. Aujourd'hui, c'est toute une génération qui ne connaît désormais que l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va être dirigé que par des robots dans les années à venir? On va être envahi par les robots? Rassurez-moi, mon cher Pascal.
L'homme garde la prééminence, garde la main là-dessus, mais effectivement, il y a d'une part un problème de très grande inégalité entre les pays et les individus qui auront accès à cela et ceux qui n'auront pas. J'avais consacré un livre spécifique sur la géopolitique de l'intelligence artificielle. Oui. Le grand défi, il est double. C'est est-ce que ceci peut être vers une corne d'abondance? Est-ce que ça va permettre de produire beaucoup plus et donc de satisfaire les besoins élémentaires de l'humanité? Ou est-ce qu'au contraire, on aura des Elon Musk, on aura des Bill Gates qui vont concentrer la richesse, et avec la disparition des emplois, on aura une masse de gens qui ne seront plus être utiles, justement, parce que il n'y aura plus d'emploi pour eux. Donc, selon la façon dont on gérera le développement de l'intelligence artificielle, cela peut être une société plus abondante ou une société encore plus inégalitaire que celle que nous connaissons aujourd'hui.
Eh ben, très beau livre que j'invite vraiment tous nos auditeurs à aller se le procurer. C'est aux éditions Erol. La géopolitique, tout simplement, donc de Pascal Boniface et de Anne Sénéquier, y compris pour l'offrir pour le mois de Noël. Effectivement, vous avez raison. Et je pense qu'on en offrira quelques-uns, si vous nous l'accordez, à nos auditeurs prochainement.
Avec grand plaisir.
Merci, on se retrouve demain, nous, pour votre billet d'humeur, si j'ai bien compris.
Et demain, 19h30.
Merci à vous. 19h13, très belle soirée, Pascal Boniface, le patron de l'IRIS. Toujours un plaisir avec Pascal. Il nous embarque avec lui, on a l'impression qu'on va y rester, ça y est, c'est parti. Nous plonge dans l'histoire, 19h13, nous allons marquer une courte page pub et on se retrouve dans une poignée de minutes avec le face-à-face Emmanuel Dupuis, mais également Mohamed Benjebour. Le standard est ouvert au 01 53 48 3000. La cinquième vague, est-ce que vous considérez qu'elle est là et est-ce que vous êtes inquiet? Allons-y, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec justement le standard qui est ouvert tout de suite.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et je veux qu'on échange ensemble sur le Covid-19, la cinquième vague. Est-ce que vous considérez qu'elle est là? Est-ce que la situation épidémique vous inquiète? Est-ce qu'elle vous préoccupe? Est-ce que vous allez rentrer encore de nouveau dans une espèce de psychose qui considère à dire oh là, attention, qu'il va falloir qu'on fasse attention à tout cela? 01 53 48 3000, le face-à-face en entendant vos appels.
Les informés. Le face-à-face.
Et c'est avec celui qui devait se retrouver aujourd'hui au Maroc. Il est avec nous et on est toujours un plaisir de le recevoir. Il s'appelle Emmanuel Dupuis. Bonjour Emmanuel. Attendez, on va vous ouvrir le micro. Ça va?
Ben oui, le micro.
Vous n'avez pas amené le soleil, c'est ça?
Et non, je ne vous ai pas amené le soleil.
Non.
Hein? Président. Ouais, j'aurais pu le partir avec, mais non.
Président de l'IPSE.
Oui, absolument.
Ouais. Et Mohamed Benjebour, ça va?
Ça va et vous?
Consultant en communication et en culture notamment. Tout va bien?
Super.
Vous avez froid, vous, non? Qu'est-ce qui se passe?
Un petit peu.
Mais c'est très bien, non, tout
venu,
va bien.
Vous êtes venu comme.
Il fait chaud dans le studio aussi. Hein.
Oui, il fait très chaud, donc on a ouvert les.
Je sais pas, j'ai vu que dans le Death Weekend, là. Vous avez vu le Death Weekend? Il y a un froid polaire qui arrive.
Ah,
c'est... ah, ils annoncent ça, je vous promets.
Bon, bah, ça va de pair avec la cinquième vague.
Ce week-end et toute la semaine, on va se taper des -3, -2. Voilà. Bon, bref.
Vite retourner au Maroc alors.
Ah, c'est pour toi, c'est oui, pour vous, oui, Emmanuel Dupuis. Allez, je vais juste accueillir une auditrice et ensuite après, on lance les débats, les trois sujets qui nous concernent justement avec le Covid-19. Fatima de Paris. Bonjour, ma chère Fatima.
Bonsoir Adil, j'espère que mon souhait est que vous allez très très bien.
Quel retour, ma chère Fatima. Mais vous savez, vous me faites plaisir, ça fait longtemps que je ne vous ai pas entendu.
Allah yisalmak wa yatawwal 'amrak.
Merci, j'ai pensé à vous, je me suis dit, mais elle a disparu, notre Fatima internationale.
J'étais occupée. J'étais occupée,
d'accord. Bon,
alhamdoulilah.
Comment ça va?
Alhamdoulilah, ça va très bien. Je voudrais revenir à ce sujet qui me hante, ce fameux virus.
Qui vous hante,
moi,
oui.
Je ne vois rien de tout ça, ni troisième vague, ni quatrième vague, ni autour de moi. Je parle autour de moi, je parle voisinage. Ouais. Alors, ces gens contaminés, je ne sais pas d'où ils sortent. Elle dit d'une
part. J'aime bien.
En plus.
Et pourtant,
les
bons. Oui.
En plus, Adil, je crois que ce gouvernement, il a trouvé une astuce pour ne pas parler d'autre chose.
Oui.
On dirait que le problème numéro un dans le monde, et en France en particulier, c'est le virus. Il n'y a ni problème de précarité, ni problème de chômage, ni problème... Donc, les gens, ils vont mourir de précarité, de chômage, de dépression, et pas de Covid. Il y a combien de morts par an de Covid? Ils sont en train de nous rendre dingues. Dingues.
Et ça vous rend dingue, vous?
Moi, ça me rend dingue. Parce que moi, je suis âgée et je suis en train de perdre 2 ou 3 années pour rien du tout.
Bon.
Vous comprenez?
Vous êtes vaccinée ou pas, Fatima?
Non, je ne suis pas vaccinée. Je ne veux pas me faire vacciner.
Ah oui.
Et donc, voilà le problème. Je vais vous dire une chose, Adil.
Dites-moi.
Moi, ça fait combien de temps le Covid? 2 ans.
2 ans maintenant, oui.
2 ans.
Oui.
J'ai fait 2 PCR pour voyager.
Oui.
Je n'ai rien eu de tout
tant
ça.
Tant mieux.
Pourquoi je... Parce que ce n'est pas le vaccin qui va me protéger. Parce que je vois que les vaccinés, ils se sont lâchés.
Ouais.
C'est le masque. Moi, depuis 2 ans, j'enlève pas mon masque. Dès que je sors de chez moi, j'ai mon masque. Je ne l'enlève pas.
Ouais.
J'ai la distance. J'essaye de mettre une distance
et le gel.
Avec les autres. Et le gel dans la poche. Et je vous assure que, bon, on dit grâce à Dieu, mais surtout, grâce à la prévention, que je n'ai rien eu, alhamdoulilah.
Eh bien, tant mieux, pourvu que ça dure. Je vous le dis, je vous le souhaite. Je vous le souhaite, ma chère Fatima.
Non, parce que et les gens, ils, quand ils sont vaccinés, ils croient qu'ils passent pas le virus, que ça,
non,
ils sont
faux,
protégés à 200%, alors
faux.
Que c'est faux. Je les vois, moi, à côté de moi, dans les cafés, dans les machins. Ouais. Et nous, on est pénalisés. On peut pas aller. Moi, personnellement, je peux plus aller à la bibliothèque. Il y a des salons ici à côté de chez moi, à Versailles. Je peux plus y aller. Je peux pas me faire
ça vous
tous
pénalise.
Les jours.
Ouais.
Voilà. Et donc, moi, je dis à ce gouvernement, moi, j'ai voté pour eux. Mmh. Mais je vous assure que si j'avais le choix entre le diable et eux, je voterais pas. Je voterais pour le diable.
Bon.
À semaine billet.
Bon, on a le temps d'attendre. On a le temps de voir.
C'est un plaisir, Adil, de vous entendre.
Moi aussi. Prenez soin de vous, ma chère Fatima,
merci,
surtout.
Merci, moi.
Allez, je vous embrasse. 01-53-48-3000. Messieurs, tout de suite, on va lancer ce sujet, justement, que Fatima me permet une belle transition. Est-il normal qu'il y ait désormais plus de vaccinés que de non-vaccinés à l'hôpital? C'est un grand point d'interrogation qui est soulevé, vous savez, par qui? Par le Figaro, et ça m'a interpellé. Alors, cette statistique du ministère agite les anti-vax sur les réseaux sociaux. Messieurs, franchement, on est en pleine reprise épidémique. Alors, ça vous fait sourire, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que cinquième vague, on est en plein dedans. Ceux qui sont dans les hôpitaux, est-ce que c'est ceux qui sont les vaccinés? Ceux qui ne sont pas vaccinés? C'est le flou total, messieurs.
Mais c'est le flou total depuis le début. D'ailleurs, on avait eu cette conversation lors de la précédente émission où je vous avais fait part de mon courroux et de cet énervement, de cette panique face à cette cinquième vague. Cette cinquième vague.
Mais oui, c'est vrai, vous aviez passé un coup de gueule.
Bah oui, parce que cette cinquième vague, c'est
rarement vu comme ça.
Bah c'est une vague cyclique. C'est la grippe. Voilà. C'est pas autre chose. Il faut s'adapter. On donne l'impression que c'est cataclysmique. Parce qu'on a eu un peu l'impression que tout devait être réglé.
Et pourquoi on pose cette question? On dit que c'est ceux qui sont dans les hôpitaux, c'est les plus vaccinés et pas les non.
Moi, je poserai une autre question.
Oui, laquelle?
Alors, si la vaccination ne permet pas d'éviter d'être à l'hôpital, qu'est-ce qui permet de le faire?
Ouais.
C'est vrai.
C'est aussi simple que ça.
C'est vrai.
Alors, par contre, le fait que il y ait une troisième, quatrième, cinquième vague, on s'en fiche.
Oui.
Qu'il y ait une vague épidémique, c'est une évidence. Mais c'est une évidence qui va durer pendant des années et des années.
Oui.
Puisque c'est un virus qui s'est installé. Il ne sera pas éradiqué. On va apprendre à vivre avec. Moi, je ne suis pas paniqué sur le fait qu'il y ait une nouvelle vague. Ce qui m'inquiéterait, c'est si cette nouvelle vague provoquait autant de morts que la première. Or, ce n'est pas le cas, car depuis, nous sommes protégés, mieux protégés, par la vaccination. Les chiffres sont sortis, hein, 87,5% sur la vaccination première dose ou deuxième dose, et 75% de la population qui est entièrement vaccinée. Ce qui est extraordinaire, qui n'était pas facilement atteignable dès le début. Ça fait, je rappelle, plus de 50 millions de Français qui sont pleinement vaccinés.
Absolument.
Donc ils sont, d'une certaine façon, protégés, en tout cas, qui sont mieux protégés. Et ça, c'est un élément important, mais on reviendra sur ce que cela veut dire d'agiter le risque de cette cinquième vague, parce que c'est surtout ça qui est important.
Eh bien, on va en parler justement juste après Mohamed Benjibour et évidemment son point de vue là-dessus.
Alors, j'ai peut-être manqué quelque chose, mais il me semble que l'article du Figaro dit qu'il y a une augmentation des vaccinés à l'hôpital. Il y a plus de vaccinés qui vont à l'hôpital, mais il n'y a pas une majorité de vaccinés à l'hôpital, hein, on est d'accord. Donc, ça reste quand même. Les vaccinés restent quand même beaucoup moins exposés à l'hospitalisation. Les non vaccinés ont 9 fois plus de chances et sont 9 fois plus nombreux que les vaccinés en hospitalisation. Moi, ce que je veux dire simplement par rapport à ce que disait Fatima, bon, c'est un peu dommage, alors je veux pas préjuger de son âge, mais qu'elle pense vraiment qu'il y a rien à faire et qu'elle n'ait pas besoin de se vacciner, mais c'est vrai qu'il y a eu un relâchement total
de la population.
Enfin, on le voit dans le métro, on le voit dans les gens se refont la bise, etc., etc. Et donc Fatima a raison de faire très attention et de toujours faire attention. Les gens n'utilisent plus le gel. D'ailleurs, les ventes de gel se sont effondrées. Et puis il y a le froid et comme l'expliquait tout à l'heure Emmanuel et sa conséquence qui est le fait qu'on reste plus à l'intérieur. Mais vague, c'est une vaguelette quand même, parce qu'on est quand même à 8 fois moins d'entrées à l'hôpital qu'en novembre 2020. Il y a 5 fois moins de personnes en réa et il y a 10 fois moins de décès.
Alors pourquoi on parle de cinquième vague? Pourquoi on parle d'un confinement? D'un potentiel confinement, messieurs? Et c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement.
Non, pas du tout.
Si. Bah, attendez, Gabriel Attal, ce matin, l'a laissé entendre. Que la question
mais
du confinement
pas,
non. se posait.
Non,
est, mais si,
pas du tout.
Mais si,
il a dit le contraire.
Mais si.
Il a dit le contraire.
Il a dit, pour le moment, on l'envisage
pas. Non, il a dit ni de près, ni de loin.
Oui.
Ni de près, ni de loin.
Et plus loin, monsieur Emmanuel Dupuis est plus loin et dit, s'il le faut,
pardon, mais,
bah, évidemment.
Si ça s'impose, on confond.
Mais évidemment, mais encore une fois, vous confondez deux choses. Le confinement n'est pas une réponse médicale.
Non.
C'est une réponse administrative.
Non. Et défensive.
C'est vrai. Donc il ne faut pas dire qu'on va vers un confinement, puisque ce serait la négation de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent.
Mohamed.
Je rappelle maintenant, d'une phrase, qu'on n'est pas dans un confinement de la population, et dans un confinement des non-vaccinés.
Oui.
Ce n'est pas du tout la même chose.
C'est vrai. Mais
c'est le cas en Autriche depuis le week-end dernier.
Confiner les seuls les non-vaccinés, c'est discriminatoire.
Mais excusez-moi, confiner la population française, ce n'est pas discriminatoire?
Aussi.
Ah oui, un peu plus.
Mohamed voulait dire.
Véran déclarait ce matin dans une interview d'un quotidien gratuit que le virus déjoue tous les pronostics. Donc c'est vrai qu'ils finissent toujours, les membres du gouvernement aujourd'hui, leur phrase depuis quelques temps, maintenant depuis un an, par à ce stade.
Voilà.
Non, mais par à ce stade avant. Oui. Donc ils disent
vrai,
ils pas de confinement à ce stade.
À ce stade.
Mais comme ils déjouent un peu les pronostics, on avait aussi pas besoin de masque, on n'aurait jamais le passe sanitaire. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Donc j'espère qu'on va pas vers un confinement parce que je suis d'accord avec Emmanuel là-dessus. On est sur une vaguelette et on est largement moins en souffrance qu'il y a un an. Hein. Il n'y a pas de comparaison. Mais c'est vrai qu'on dit à ce stade, parce qu'ils sont très prudents. Voilà.
Continue d'en parler justement, messieurs. Juste, il est 19h30 et je vais être ponctuel. C'est le Quoi de Neuf, comme tous les jours d'ailleurs, avec la signature des éditorialistes.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Avec le docteur Majid Soussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi à l'hôpital des Invalides chez les militaires. Bonjour mon cher docteur Majid Soussine.
Bonjour cher ami.
Comment allez-vous? Vous allez bien?
Pas trop mal, je vous remercie.
Bon, aujourd'hui vous avez décidé de nous consacrer votre billet d'humeur sur... j'ai perdu le fil.
Je voulais vous faire part de mon inquiétude.
Voilà, c'est ça, l'inquiétude.
Je suis très très inquiet parce que nous sommes à près de 6 mois des présidentielles.
Oui.
Et je suis très inquiet, c'est pas à cause des diverses pénuries dues à la reprise de l'économie, non pas non plus à cause de l'inflation qui est en train de pointer son nez, même pas à cause du réchauffement climatique qui est quasiment certain après les résultats annoncés de la COP26 qui sont plutôt décevants. Encore moins à cause des risques de guerre mondiale où nous risquons de nous laisser entraîner. Et je vous rappelle que l'état-major des armées travaille sur l'hypothèse d'un conflit majeur à l'horizon de 2030. Je suis inquiet parce que nous ne sommes plus chez nous.
Ah bon ? D'accord. On n'est plus chez nous. Alors, je vous écoute.
Et j'ai été conforté dans cette idée cette semaine. Non pas en prenant le métro place de la Chapelle, ni même en mangeant un sponge au marché de la Noucaillée à Bondy. Vous allez rire un peu moins. Encore moins en cherchant mon chemin à Ivry. À Ivry, où j'ai mangé dans une pizzeria, où seul le nom des pizzas était italien, car tout le reste était tunisien. Pizzeria, où disais donc j'ai mangé en compagnie d'une certaine personne,
oh, un sacré docteur
tunisien, à base de semoule, d'harissa et de piment, qui a enflammé la toute fin de notre tube digestif.
Oh mon Dieu. Oui, vous êtes fou, docteur. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez craqué ou quoi?
Non, je vous raconte ce qui se passe. Et donc j'ai compris que nous n'étions plus chez nous en regardant le deuxième débat de la Star Academy des Républicains. Parti dont je vous rappelle qu'il est généralement qualifié de droite républicaine par opposition au RN et aux autres partis extrêmes. Et j'ai assisté, comme vous, peut-être à un festival de surenchères sur l'immigration et l'insécurité qui m'ont tellement fait peur que j'ai été tout de suite enterré mon burnous blanc dans le bois de Vincennes et avalé cette jolie main de Fatma qu'on m'avait offert quand j'étais petit, car comme vous le savez, Adil, je suis beau et je provoque la jalousie.
C'est ça, exactement.
Voilà.
Je confirme.
C'était à qui en rajouterait le plus? Pécresse veut aller plus vite, plus fort, avec des brigades coup de poing auquel l'armée pourrait même participer. Faites attention, mon cher Adil, vous allez bientôt finir dans la selle comme en octobre 61. Elle propose de revenir sur le droit du sol. Il ne faut pas rire. Hein. Elle propose de revenir sur le droit du sol, ce qui me rappelle 86 et le rapport Marcel Ollon. XB, lui, va diminuer le nombre d'étudiants étrangers de 50%, ce qui est de la très haute intelligence, car c'est justement ces étudiants venus des pays du tiers-monde que cherchent à attirer le monde entier pour des raisons évidentes d'aspiration de cerveau, brain drain en américain. Même le sage Barnier m'a traumatisant en m'expliquant qu'il y avait des régions de France où justement nous n'étions plus en France.
Aïe. Et c'est Barnier qui dit ça. Hein.
Ouais, finalement, pourquoi payer si cher un billet pour aller en Afrique alors qu'il suffit de prendre le RER ou le...
Heureusement que vous avez le sens de l'humour.
Ah, mon cher Adil, on va enfin être gouverné par des vrais patriotes qui vont effacer le souvenir d'un Juppé. Vous vous souvenez, il y a 5 ans seulement, il était républicain lui aussi, d'identité heureuse. Ou même d'un Sarko qu'on a taxé de tout, hein, qui se disait, lui, sans mêler ces espèces de petites lavettes qui n'étaient pas des vrais patriotes. Ils vont remiser aux oubliettes ce Rital de Zola et ses J'accuse, ou ce Suisse de Rousseau et son contrat social. On va enfin retrouver cette France qui sent le camembert pourri ou la choucroute rance. Régissons-nous, même si je dois avouer que pour ma part, j'ai un faible pour le camembert bien fait et la choucroute de la mer que je mange parfois.
Franchement, bravo mon cher docteur Majid, c'est aussi un excellent billet d'humeur. Vous m'avez fait beaucoup rire et j'ai pleuré de rire d'ailleurs. C'est mon conseil.
Attention de ne pas tâcher votre chemise. Hein.
Exactement.
J'ai pas compris, la choucroute de sa mère ou la choucroute de la mer?
La choucroute de la mer. La choucroute de sa mère, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais la choucroute de la mer, c'est délicieux.
Je ne connais pas, mon cher.
Délicieux, très bon. Voilà.
Eh bien, merci mon cher docteur. Le Covid-19, qu'est-ce qu'on peut dire? Tiens, je profite, je parle au médecin, ouais. Parce qu'on est en plein débat justement. Est-ce qu'on peut parler du taux d'incidence qui a bondi de 44% en une semaine? Alors, non, Emmanuel Dupuy, il dit que c'est mêlé avec la grippe, tout ça, donc bon.
Non, la grippe, c'est facile de faire le test pour faire la distinction entre la grippe et le Covid-19. Quand vous faites un test PCR qui est positif pour le Covid-19, il ne peut pas en même temps être positif pour la grippe. Donc, si c'est le nombre de tests PCR qui a bondi, c'est des tests PCR très spécifiques pour la Covid-19. Donc c'est pas la grippe. La grippe, c'est encore un peu tôt pour qu'elle arrive. Il y en a pas beaucoup ou très très peu. En tout cas, ça n'a pas atteint le seuil du réseau Sentinelle. Il y a un réseau qui surveille les grippes qui s'appelle le réseau Sentinelle. Pour l'instant, il n'est pas mis en alerte. Non, il y a une augmentation du nombre absolu de cas de Covid, c'est assez évident. Heureusement, il n'y a pas tant de formes graves que ça, et ça, c'est tant mieux. Mmh. Mais c'était un peu prévisible, parce que le vaccin protège plutôt contre les formes graves, mais pas contre la maladie, et les conditions atmosphériques sont favorables à la propagation du Covid. On observe la même manifestation que celle qui était produite l'an dernier.
Hein. Oui, Mohamed Benjibour.
Docteur, c'est les conditions atmosphériques en tant que telles, ou le fait qu'on se cloître à la maison ou au bureau
C'est polyfactoriel. D'accord. Il y a la reprise des écoles, il y a le fait qu'on est plus à l'intérieur des maisons, évidemment, donc c'est des atmosphères closes parce que c'est pas tout à fait le grand soleil et on va pas sur les terrasses. Il y a le fait que manifestement, quand même, quand les températures baissent, il y a plus de cas de Covid qu'en été, qu'on l'explique ou qu'on l'explique pas, mais c'est ce qui se passe en Europe. Et il y a le fait que, malheureusement, la couverture vaccinale, elle n'est pas absolue, puisqu'il reste encore quand même 9 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Et moi, je vois régulièrement des gens qui ne sont pas vaccinés, y compris des personnes âgées. Hein. Mmh.
Exactement. Bah, on a eu une auditrice tout à l'heure, Fatima de Paris, qui nous disait clairement, qui a assumé d'ailleurs, hein, qu'elle n'était pas vaccinée. Et en revanche, qu'elle faisait extrêmement attention. Mais bon, voilà.
Ça ne suffit pas, malheureusement. Hein, parce que ça ne suffit pas.
Merci, docteur Majid Soussine.
À
la semaine prochaine, avec autant de plaisir.
Avec joie, mon cher.
Merci, bravo pour votre billet d'humeur, 19h37. Nous allons marquer la page pub et on revient justement avec ce que vous savez soulever. Je vous attends d'ailleurs, je ne vous ai pas oublié, mon cher Emmanuel Dupuy. Ben, hein,
sur c'est un sujet qui m'énerve, mais enfin, il faut quand même le prendre au sérieux.
Oui, absolument. Allez, allons-y. À tout de suite pour la dernière ligne droite. Restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
19h40 en direct avec Emmanuel Dupuy, mais également aussi avec Mohamed Benjebour. Vous savez, on va continuer de parler avant de passer du Covid-19, avant de passer à ce second sujet. Le clash entre Jean Castex, le
Premier ministre.
Et exactement. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le Covid-19, justement, et ce taux d'incidence par département, ce nombre de 44% en une semaine, en gros, les causes, les conséquences, mais aussi les enjeux?
Bah, je crois que ça a été mieux dit que nous pourrions le dire autour de ce plateau.
Par le médecin.
Avec Mohamed, par le médecin, l'expert en la matière. Mais je crois effectivement qu'il faut être vigilant, parce que le taux d'incidence est là, en tout cas celui que le corps médical indique comme étant un seuil d'alerte, un taux d'incidence de 100 habitants, personnes touchées sur 100 000 habitants. Enfin, il faut quand même rappeler qu'on est très loin des chiffres des années et des mois précédents, puisque il n'y a que 48 départements sur les 100 qui ont ce taux d'incidence, oui, d'alerte. Oui. Donc c'est pas la totalité du territoire national. Il y a des divergences ou des disparités. Je prends l'exemple, par exemple, de la Haute-Corse et de l'Ardèche, où là on est à 200. Vous voyez qu'il y a aussi une inégalité territoriale dont il faut tenir compte. Mais ce qui, moi, m'étonne beaucoup, c'est que...
Ça vous fait sourire, mais bon.
Mais non, c'est pas que ça me fait sourire, c'est que ça m'étonne que l'on en parle encore avec le même catastrophisme. Mmh. Premièrement, on a appris. Deuxièmement, on s'est vacciné. Et troisièmement, on a mis toutes les chances de notre côté pour vivre avec le virus. Donc arrêtons de dire que, mon Dieu, c'est la panique, on revient en arrière. Non, on avance. Donc tant pis s'il y a une nouvelle vague. On va vivre avec, on ne va pas reconfiner. Le confinement serait une aberration, d'autant que j'ai les chiffres sous les yeux. Le confinement est justifié quand il y a une tension sur les lits de réanimation qui fait qu'on a une saturation. On est à 25%. On est très, très, très loin d'un confinement. Donc arrêtons de dire cinquième vague est égale à un confinement. La cinquième vague, la sixième, la septième et la huitième vague, elles seront inévitables, et parce que nous serons vaccinés, nous y résisterons mieux.
Fin du débat. Voilà, il veut
le... Voilà, pour le coup, je ne vais plus rien dire, parce que je suis d'accord avec Emmanuel, il faut vivre avec, et voilà.
Passons à ce second sujet, justement, à l'Assemblée, le ton monte, ça clash entre Jean Castex, justement, et les LR, sur le moyen de l'hôpital, et justement, j'aurais dû poser la question tout à l'heure au médecin Majid Soussine. Dites-moi, aujourd'hui, ce clash, évidemment, il a ses raisons d'un côté entre Jean Castex qui, lui, se lâche, je ne sais pas si on a la vidéo, on pourrait peut-être la diffuser.
Le son, au moins, parce que c'était assez singulier.
Je, tiens, notre réalisateur, il va retrouver, c'est Jean Castex à l'Assemblée nationale avec le
son qui monte,
avec les gens, avec les personnalités du LR.
Enfin, député Stéphane Véry qui l'interroge.
Absolument. Messieurs, alors, avait-il raison de clasher, évidemment, et de monter le ton?
C'est quand même le rôle de l'Assemblée nationale de dire, de faire passer un certain nombre d'idées. Et après tout, il est logique que l'opposition soit dans l'opposition. Que le Premier ministre perd ses moyens, ça c'est peut-être un peu plus étonnant. Mais je rappelle que c'est pas la première fois. Ouais. Souvenez-vous, il y a un an et demi, Olivier Véran, qui était sorti de ses gonds face à un député LR également pour à peu près les mêmes raisons. Le député, en l'occurrence, le député des Vosges LR, Stéphane Véry, a raison de dire qu'il y a une inacceptable diminution du nombre de lits d'hôpitaux. Enfin, quand même, la responsabilité du gouvernement, elle est que... pleinement engagée.
Mohamed Benjibou.
Non, bah, Jean Castex n'est pas non plus, c'est pas la première fois qu'il s'énerve comme ça. Il s'est énervé en avril, le 1er avril d'ailleurs, de cette année. Et suite, figurez-vous, à une question. Celui qui avait allumé la mèche, c'est Stéphane Viry déjà à l'époque.
Oui, fin mars.
C'est vrai qu'il y a une vraie tension entre les deux.
Où Stéphane Viry a trouvé le. En plus, on est dans un contexte préélectoral. Stéphane Viry est un soutien très actif de Xavier Bertrand. Ouais. Donc tout ça mélangé, voilà. Mais Emmanuel a raison de dire que le rôle de l'opposition,
c'est la même famille politique.
Certains, l'un parle d'humilité, l'un parle d'humilité, l'autre parle avec véhémence. Enfin bref, et tout ça effectivement à l'Assemblée nationale.
Oui, mais.
Non mais c'est assez cocasse quand même, non ?
Non, c'est plus que... Attends, c'est cocasse, mais franchement, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas assez gravissime qu'un Premier ministre perde ses moyens de cette manière ? Ouais. Moi, ça me choque. C'est pas tellement que le ton soit monté. Oui. C'est normal, on
écoutons,
est à l'Assemblée nationale.
Alors je vous propose d'écouter. Écoutons justement Jean Castex et l'échange qu'il a, le ton qui est très vif. Écoutez.
Responsable de cette situation et vos accusations ne sont pas dignes, je vous le dis. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Notre système de santé est en difficulté parce que des moyens suffisants ne lui ont pas été donnés. Bien. Alors, on va, en toute transparence, faire l'historique de ces moyens. En toute transparence. Il est tout à fait exact. Il est...
S'il vous plaît, monsieur Milot, madame, arrêtez. Laissez s'exprimer le Premier ministre, s'il
monsieur,
vous plaît.
Monsieur, merci, monsieur. Ne vous énervez
s'il
pas,
vous plaît.
Ne vous énervez pas. C'est
s'il
pas
vous
bon,
plaît.
C'est pas bon. Il est tout à fait exact, nos concitoyens le savent bien, que nous manquons de médecins libéraux comme hospitaliers en France. Alors, voulez-vous une nouvelle fois que je rappelle l'évolution du numerus clausus qui les forme? Bien, alors je vais le faire. On avait en 2017 un numerus clausus inférieur à 1972, alors même que la population française a augmenté, que la population française a vieilli. Ça veut dire, monsieur le député, que nous devons être humbles, car nous sommes collectivement responsables de cette situation. Et vos accusations ne sont pas dignes. Je vous le dis, vous s'il osez vous dire que le Ségur de la Santé, 19
plaît,
milliards
messieurs.
Pour l'investissement,
messieurs,
9 milliards pour les rémunérations, le plus gros effort jamais fait depuis la création de la Sécurité sociale. Mais que ne l'avez-vous fait? Que ne l'avons-nous fait avant? Enfin.
Et le ton, il est... Non mais il y a un vrai clash là.
C'est honteux de la part d'un Premier ministre de répondre comme ça.
C'est vrai, vraiment, vous considérez que c'est honteux.
Sur le fond et sur le long terme, il a raison. Oui. Sur le numerus clausus, le nombre de médecins, etc. Et sur,
je rappelle qu'il était aux affaires aussi. Hein. C'est un petit peu facile de dire.
Oui, 1972, 80. Oui, mais c'est vrai qu'il était aux affaires avec le même qui l'a interpellé. Ou en tout cas, ses amis.
Il était haut fonctionnaire, il a été préfet.
Secrétaire général adjoint.
Il a été secrétaire général adjoint à la présidence au moment où le numerus clausus n'était pas remis en cause. C'est un peu simple de ramener la responsabilité à ceux qui gouvernaient quand maintenant il est en capacité de faire et qu'il n'a pas fait. Parce que je rappelle, et je redonne la parole à Mohamed, que le constat est quand même là. Une diminution de 20% des lits d'hôpitaux publics, faute de soignants
sur le court terme.
Et il aurait pu rajouter qu'une raison pour laquelle ces soignants ne veulent plus aller dans l'hôpital public, c'est que certains d'entre eux n'ont pas voulu se faire vacciner et que certains d'entre eux ont été licenciés. Je rappelle qu'Olivier Véran a menacé d'en licencier 300 000. Il faut quand même rappeler un petit peu quelques vérités.
Alors, messieurs, justement, nous allons aborder donc ce dernier sujet, qui est le réchauffement climatique, si vous voulez bien. 0153483000, d'ailleurs, les auditeurs peuvent participer, parce que aujourd'hui, je me pose la question, et je vous pose la question, à quoi servent tout, est-ce que les COP servent à quelque chose aujourd'hui? Emmanuel Dupuis, Mohamed Benjibou. Depuis 1995, les conférences des parties de COP se succèdent, évidemment, avec des... sans grande avancée, reconnaissons-le, il faut dire les choses, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, on peut dire quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on doit continuer à organiser, justement, ces COP 27, 28, 29, 30, jusqu'où on va aller comme ça? Eh oui, est-ce que ça sert à quelque chose?
On augmente autant que la température.
Hey. Oui, c'est ça, voilà.
Je laisse plus sérieusement, je laisse la parole.
Non, mais on avait eu déjà ce débat lors de ma précédente participation à votre émission il y a 2 semaines. Et je rappelais quand même un peu d'histoire. La COP26 répond 26 ans après à la première conférence sur la Terre qui s'est tenue à Rio en 92. Et déjà, Jacques Chirac avait dit « Urgence !» Il est minuit moins une. 30 ans plus tard, on dit la même chose. Ça répond à votre question. Mmh. En 30 ans, on n'a quasiment rien fait. On n'a pas désaccéléré le changement climatique. Mmh. Alors, le président français est obligé de prendre des objectifs minimum. Non, mais on est à 1,5 donc d'augmentation Celsius.
Non, mais la COP26, c'était en quelque sorte la réunion de la dernière chance, non ?
Non.
Non,
c'est la réunion de la dernière chance depuis 30 ans, Adil.
Depuis 30 ans.
À force de dire que c'est la réunion de la dernière chance, on ne répond pas à la question.
Vous avez raison.
On ne répond pas à la question. La vraie question, c'est que la COP26 rassemble des pays qui, depuis maintenant 3 siècles, polluent et continuent à polluer. La Chine émet pour 24% des gaz à effet de serre, mais le développement industriel de la Chine est plus récent que celui des États-Unis. Donc on critique la Chine. On oublie que le plus gros pollueur depuis 3 siècles, c'est pas la Chine, c'est les États-Unis depuis la révolution industrielle. Mmh. Donc, à force de mettre la responsabilité sur les autres, en disant, regardez, ils polluent plus que nous, c'est oublier qu'il y a une responsabilité antérieure. Et ça, il faut en tenir compte. Alors, moi, je suis très heureux que l'Union européenne veuille aller vers une neutralité carbone à l'horizon 2050. Il faudrait quand même balayer devant sa propre porte. Nous sommes aussi un très gros pollueur.
La France ?
La France. Oui.
L'Europe ?
L'Allemagne plus que la France, puisque l'Allemagne utilise du charbon, ce qui n'est pas forcément une énergie très propre. Alors il a été décidé de ne plus construire d'usines de charbon et de ne plus exporter de l'électricité produite par des centrales charbon. Mais néanmoins, la contradiction veut que si on veut une énergie plus propre, eh ben il faut tendre vers le nucléaire. Aller dire ça dans un contexte politique préélectoral, plus de centrales nucléaires, on maintient nos 25 à 26, si on ferme Fessenheim, 26 centrales nucléaires, ça ne marche pas. Sauf que 70% de l'électricité que nous consommons vient du nucléaire, c'est une réalité aussi.
C'est un peu triste. Quand on a Alok Sharma qui annonce les conclusions et qui pleure et qui dit s'excuse, quand on a Barbara Pompili qui dit il faut s'en contenter, en gros c'est ce qu'elle dit. Oui. Quand elle dit,
et Greta Thunberg qui dit que tout ça c'est du bla bla bla.
Exactement. Et donc c'est un peu, ça fait très peur parce que comme le dit Emmanuel, il y a 30 ans c'était urgent et on est 30 ans plus tard et on n'a pas avancé. La courbe, pour le coup, comme la courbe épidémique, elle s'accélère et elle donne pas l'impression de ralentir. L'accélération de la courbe ne donne pas l'impression de ralentir.
Oui.
Et donc la Chine et l'Inde, c'est normal, on se met à leur place. Ils voient les Américains, ils se développent exactement. Les Américains, les Européens ont beau jeu de dire c'est eux qui consomment le plus et qui polluent le plus, mais parce qu'ils ont fait, ils sont arrivés à maturité et la Chine et l'Inde veulent se développer comme les autres pays. Mmh. Voilà.
Bon, plus d'espoir ? Si je vous écoute parler,
non, mais il y a peu d'espoir. De toute façon, il y a peu d'espoir parce que, de toute façon, le changement climatique est là. Et donc, la COP26 pourrait donner l'impression qu'il suffit d'avoir une ambition, il suffit de se payer de mots pour que ça s'arrête. C'est un peu une pièce de théâtre qui est en train de se jouer. Mmh. On souhaite avoir un objectif de limitation de la température à 1,5. Tout le monde sait qu'on est déjà à 2,7. Mmh. Et j'ai les derniers chiffres assez inquiétants du GIEC, donc le groupe international d'études sur le climat. À la fin du siècle, on ne sera pas ni à 1,5, à 2,7.
On
en 2100, à 4,3.
Ah oui, 4, ça je l'ai lu.
4,3, vous vous rendez compte ?
C'est énorme.
Ça veut dire que...
Et à la fin du siècle, c'est demain.
Non, mais oui, c'est demain, mais ça veut dire, en étant très précis, qu'actuellement, il y a 1% de la population qui vit dans des territoires où il y a une moyenne de température de 29 degrés. À la fin du siècle, c'est 20% de la population. C'est 3,5 milliards de personnes qui vivront dans des climats non plus tempérés, mais dans des climats extrêmes. Donc c'est tout un changement de vie, en termes d'habitude de vie, mais aussi en termes d'urbanisme. Il y a 300 000 lions, pardon, d'insulaires. Si 80% des îles vont disparaître parce que avec le changement climatique, avec l'augmentation...
C'est clair qu'il va y avoir des disparitions de villes, de pays...
Le premier ministre de Tuvalu a fait son intervention...
Ah oui, il a fait son intervention dans l'eau.
À mètre de l'eau, en disant c'est le niveau où est mon pays.
Ouais.
Enfin, c'est le niveau où littéralement les côtes de son pays se situent. Donc, évidemment que c'est catastrophique. Évidemment que si rien n'est fait, eh ben, c'est pas faute de dire... Enfin, c'est pas en le disant, pardon... que l'on va aboutir à quelque chose. Alors moi, je suis très heureux qu'on se donne des objectifs. Hein. On peut les redire pour que le public soit averti. Réduction des gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030. Neutralité carbone d'ici 2050. Freiner l'augmentation donc de la température. Limiter autant que faire se peut la montée des eaux. un mètre, mais en fait, c'est pas un mètre, c'est déjà trois mètres à la fin du siècle, évidemment, aider les pays les plus pauvres à s'adapter au changement climatique. Mais comme rien n'est fait concrètement, les COP26, et je réponds à votre question, Adil, il y aura une COP27, une COP28, une COP29, une COP30,
là...
on dira les mêmes choses, sauf que le principe de réalisme fait que les objectifs seront de moins en moins ambitieux. Voilà.
Bon, Mohamed,
c'est triste.
Non, bah, c'est vrai que
une note d'optimisme peut-être.
Bah, pas du tout.
Pas du tout.
La première ministre,
je l'aurais pas.
La première ministre de la Barbade a expliqué que à 2 degrés son peuple était condamné à mort. Bah, il faudrait que quelqu'un lui explique que le peuple est déjà condamné à mort et qu'il faut se préparer à ça. Non, c'est terrible. Et c'est vrai que tant que ça concerne
Marseille et toutes les villes méditerranéennes sur le littoral sont condamnées également. Hein.
Et Adil, si tu peux me permettre, tant que ça concerne le Tuvalu, Barbade, Wallis et Futuna. Bah, ça nous gêne
c'est
pas trop
exotique.
Pour l'instant. C'est exotique, absolument.
Merci, messieurs. Merci donc à Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, qu'on retrouvera très prochainement. Merci à.
Merci à Bilal, qu'on salue.
Merci à vous.
Consultant en communauté sur Internet. Bilal Nedman.
Bonsoir, les informés.
Alors, Time Sport, justement, qui vous attend. Qu'est-ce que vous proposez au menu?
On va parler du duo Benzema et Kylian Mbappé. Désolé. Et aussi, sans oublier, le retour sur cette année, cette saison 2021 des Bleus. Et on parlera aussi des nations africaines.
Joli programme qui vous attend donc dans une poignée de minutes. Merci à vous, la réalisation
de l'Algérie.
Exactement. À demain avec autant de plaisir. Ciao, ciao, on est à la bourre, c'est pour ça.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.